je suis ravi, Julie, c'est un grand honneur pour moi. Je sais pas à quelle sauce je vais te manger, mais je suis prêt, je vais essayer de répondre à toutes tes questions, d'accord?
Mathieu Dunker, comment as-tu eu cette idée de partir en solo sur cette île?
Eh ben, alors, c'était un rêve d'enfant, quand j'avais à peu près 8 ans, 7 ans, comme ça. Et j'avais lu Robinson Crusoe. Et je me suis dit, ça va être extraordinaire d'aller habiter seul sur une île déserte en vivant uniquement de la nature. Voilà, donc l'idée, c'était, c'est un livre qui m'a inspiré à cette idée-là quand j'étais enfant. Et puis après, je me suis dit que dans mon travail, c'était bien ce que je faisais, mais c'était pas assez engagé. Je voulais vraiment être au cœur de la nature. Et donc je me suis dit, mais il faut que tu ailles sur ton projet d'enfant, d'aller sur l'île, et puis que tu ailles étudier les oiseaux, les poissons. Voilà, donc ça fait depuis 40 ans que j'ai dans le cœur le sujet. Et puis ça fait depuis quelques années que vraiment j'en parle à ma fille, à leur maman. Et puis enfin, grâce à ça, avec toute la bonne énergie, bah, j'y suis.
Et qu'est-ce qui t'a vraiment attiré sur cette île?
Alors cette île, je trouve qu'elle est intéressante parce que déjà, elle est inhabitée. Il y a Jaco, t'entends qu'elle est là, mais globalement, elle est inhabitée. Je me dis que ça va être encore plus extraordinaire parce qu'il n'y a personne qui vient la perturber, la chahuter. Et puis, il y a des passes qui permettent de rentrer et sortir facilement. Puis, ben ça, c'est génial parce que pour accéder, c'est facile. Pour repartir, c'est facile. Et puis, les passes, c'est les zones en fait où il y a des courants marins, tu sais. Les poissons, ils rentrent, ils sortent. Et donc, souvent, les lagons, les atolls où il y a des passes, ils sont beaucoup plus riches que les lagons des atolls où il n'y a pas de passes. Et enfin, il y avait un oiseau un peu extraordinaire qui existe quasiment que nulle part ailleurs que sur cet atoll et puis deux autres un peu éloignés. Et je me suis dit ça serait intéressant d'aller étudier, de voir s'il se porte bien, ça s'appelle le titi. Et donc toutes ces raisons, c'est parce que il était connu pour être très beau au niveau de la biodiversité, parce que il recèle cet oiseau qui est emblématique des îles des Tuamotu, mais qui est en voie de disparition. Et parce que l'environnement avec les passes était parfait pour mener mon expédition, je lui ai dit, bah, ça c'est le bon atoll. Alors je dis pas le nom parce que je veux qu'il reste secret, on le garde entre nous. Mais j'ai regardé tous les atolls des Tuamotu, 76 atolls, il y en avait un seul qui correspondait à mes critères, et c'était cet atoll-là. Je lui ai dit, bah, faut venir ici alors.
Comment as-tu réussi à survivre sur ton île?
Alors, je ne sais pas si j'ai survécu ou si j'ai vécu. Pourquoi? Parce que je ne suis pas parti tout nu avec juste un couteau. Avec moi, j'avais emporté quand même du riz, des lentilles, de la farine pour faire du bon pain coco. Et j'avais également Jaco. C'est quelqu'un qui fait du copra, qui habite de temps en temps, il est au nord de l'atoll. Il m'a appris les plantes qu'on peut manger, comme celle qu'on a mangée tout à l'heure à l'île aux oiseaux, qui est un peu pimentée, ou le petit pourpier. Quel poisson on peut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Donc, grâce à toutes ces connaissances, il m'a aidé à vivre en harmonie avec mon environnement. Tu vois. Et puis donc, bah, petit à petit, bah, j'ai pêché, comme vous, des poissons, des coquillages. Et puis finalement, j'ai très bien vécu, tu vois. Je suis pas comme ça. Je suis pas tout maigre. Hein. Voilà.
Et est-ce que tu t'es fait des amis?
Alors, je me suis fait des amis. Alors, les premiers amis que je me suis fait, c'est les Titi. Parce qu'ils étaient là juste à côté de mon faré. Et tous les matins, bah, ils venaient picorer ici un peu de coco. J'ai d'autres amis, c'est les fous masqués. Voilà, donc il y a eu Fourré. Fourré, c'était un beau fou qui est cette taille-là. Et j'appelle Fourré parce qu'il passait son temps à l'abri d'un petit fourré. Et dès que le soir arrivait, comme maintenant, il sortait de son buisson. Il allait au bord de la plage, il attendait des comme ça, et il y a ses parents qui venaient le nourrir. Et je trouvais ça génial en fait. Donc il y a eu Fourré, après il y a eu Fougasse, et après il y a eu Fourrir. Voilà, c'était mes amis, les trois là. Puis ils se sont envolés les uns après les autres. Il reste Fourrir encore, qui habite sur le petit motu à côté. Et puis enfin, bah, j'ai eu la chance de croiser des gens comme vous, mais pas beaucoup. Il y a eu votre famille, et puis aussi un couple allemand qui sont venus au mois de juin. Et qui m'ont permis d'appeler ma famille, qui était un peu malmenée par les événements en Calédonie. Et voilà, en fait, finalement, c'est les seules amitiés avec Jaco. Mais Jaco, c'est comme si c'était mon parrain. Parce que Jaco, il veille sur moi. Toutes les 3 semaines, il vient voir est-ce que ça va bien, Mathieu. Voilà, donc ça résume un petit peu les gens qui ont compté pour moi et les animaux pendant ces 8 mois d'expédition.
Comment tu as fait pour gérer tes émotions tout seul ?
Viens, t'en as des sacrées questions, toi. Alors, comment j'ai fait ? Quelquefois, j'ai pas bien géré. J'ai pas géré, c'est-à-dire qu'en fait, que tu peux avoir un mal au cœur ou t'es triste, tu te réveilles un matin, tu sais pas pourquoi, t'as le blues, tu te dis qu'est-ce qui se passe en fait ? J'ai un peu mal au ventre, je me sens pas très bien, je me sens faible. Ben, c'est la solitude souvent. Au début, j'ai pas compris, je pensais que j'avais mal au ventre parce que j'avais bu de l'eau qui était croupie de la mauvaise eau. Et puis je me dis, mais non, mais l'eau de mon dessalinisateur, elle est bonne, c'est pas ça. Alors, je me suis dit, en fait, non, mais ça, c'est la solitude en fait que t'es en train de vivre, mec. C'est dur la solitude. C'est comme si tu recevais un coup de poignard dans le ventre. Ça fait vraiment mal ici, quoi. Bam! Et alors, quand j'ai eu des moments difficiles comme ça, d'abord, il faut les accepter, parce que ça fait partie du voyage, ça fait réfléchir. Et bien après, la solution que j'avais trouvée, c'est de me botter le cul. C'est-à-dire, ne reste pas à rien faire. Tu vas faire ton pain coco, tu vas aller pêcher, tu vas aller étudier les oiseaux, tu vas faire ce que tu aimes faire, tu vas faire des photos, des images. Et là, la solitude, quand je faisais ça, en fait, elle partait. Elle partait un peu plus loin, en fait, elle me laissait tranquille. Et puis elle revient, comme tu entends, au galop, comme ça. Un mois plus tard, elle redébarquait. Elle me prenait au dépourvu. Et à nouveau, j'essayais de l'apprivoiser et puis de vivre avec elle, quoi. Voilà, donc j'ai eu des moments difficiles, l'émotion, et puis j'ai aussi des moments de tristesse en pensant à ma famille qui était dans la douleur, tu vois, à Nouméa. Mais j'ai aussi des moments, heureusement, de joie, des moments où tu navigues comme ça sur un lagon magnifique, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis bien, en fait. T'as le soleil sublime qui se couche, t'entends le bruit de l'eau, tu vois les étoiles la nuit, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est des faciles à vivre, parce que c'est des émotions qui viennent... te rendre heureux, en fait, tu te dis, mais je suis en communion avec la nature. Voilà, donc j'ai eu des émotions très difficiles, très dures, douloureuses, des moments aussi de bonheur, comme ma fille, on peut envoyer une jolie lettre au mois d'octobre, tu vois, qui avec le cœur, en fait. Ça, c'est fort, hein, de recevoir des moments comme ça. Voilà, et puis des moments tristes, un peu la vie, des moments de tristesse et des moments de grande joie. C'est la vie.
Est-ce que la Nouvelle-Calédonie t'a manqué ?
La Nouvelle-Calédonie, non, ma famille et mes amis m'ont manqué. Après, le pays, je le connais bien, je l'aime beaucoup. Ça fait 20 ans qu'on y vit là-bas. Mais ici, j'aimais bien parce que il n'y a quasiment pas d'hommes, en fait. Tu vois, c'est que faire des kilomètres et des kilomètres, des jours entiers, des semaines, tu vois personne. Voilà, en Calédonie, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, tu vois toujours quelqu'un. Donc ce côté très sauvage de l'atoll, il m'a vraiment beaucoup plu, la Calédonie. Je l'ai dans mon cœur, j'aime les paysages et j'aime les gens. Mais j'étais content pour cette nouvelle découverte, tu vois, pour cette découverte.
Et qu'est-ce qui t'a rendu le plus triste ?
Le plus triste, c'est ce que je te disais, c'est lorsqu'il y a eu des émeutes en Calédonie et que ma famille était dans la souffrance et moi j'étais ici, je ne pouvais pas repartir parce qu'il n'y avait pas de bateau, parce qu'il n'y avait pas d'avion pour aller à Nouméa. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là ? Tu étudies les oiseaux, les poissons ? Et la famille, elle souffre à distance. Et donc, tu vois, il y avait un décalage, en fait. Tu peux pas, toi, vivre heureux quand ceux que t'aimes, ils sont dans le malheur. Donc ça, c'était très dur à vivre. En plus, comme mon téléphone marchait plus, je pouvais même pas appeler, rien. Et donc, dans ta tête, tu fais des films. Tu es en train de dire, mais tu es en train d'imaginer des choses horribles, en fait, tu vois. Alors, parce que je pouvais pas communiquer, c'est très difficile. Donc cet isolement, il a été très pesant pendant un mois et demi quasiment, 5 semaines, jusqu'à ce que des gens me prêtent un téléphone satellite, que je puisse appeler la famille, et ils venaient juste d'ouvrir les avions, donc j'ai pu faire de l'atoll, j'ai pris 3 bateaux, 4 avions, et Charles Anouméa. Voilà. Et donc là, dès que Charles Anouméa, en fait, ça a permis de soulager, de dire, ah là là, je retrouve l'union de la famille, quoi. Voilà, donc ce qui m'a fait souffrir, c'était savoir la famille en détresse et moi ici qui ne pouvais pas agir. C'était très dur, ça.
Quand étais-tu le plus joyeux ?
Alors, quand j'étais le plus joyeux, parce qu'il y avait des moments de joie. Il y en a que j'aime vraiment beaucoup, mais c'était pas la joie, enfin c'était de la sérénité. C'est, j'étais en train de faire une sieste sous l'eau. Je suis allé juste à côté de l'îlot, là où on va aller, là, Tiromi. J'ai plongé dans 3-4 mètres d'eau sur un joli banc de sable. On ira demain si tu veux, Lila. Et là, je savais que de temps en temps, il y a des raies aigles, des raies léopards, en fait, qui volent autour. Et j'étais tellement bien, il y avait une belle lumière, c'était le matin, il était tôt, il y avait le soleil, les rayons du soleil qui pénétraient, il n'y avait pas de vagues du tout. Moi, j'étais combinaison, il faisait chaud, j'étais bien. Et je dis, tiens, je vais aller au fond et rester très longtemps au fond de l'eau. Et puis, je me glisse dans l'eau, en fait. Et je tombe comme ça, quasiment à l'envers, et je m'allonge au long, au fond de l'eau. Là, je reste des minutes entières sans bouger. Je ferme les yeux, j'ai l'impression que je dors, en fait. Je sens l'eau qui est toute douce sur le visage. Et j'ouvre les yeux au bout de quelques minutes. Et qu'est-ce que je vois? 3, 4, 5, 7 raies qui volent, qui vont droit sur moi, quoi. Alors que jamais j'ai pu les approcher avant. Elles étaient toujours farouches. Elles sont furtives. On a vu avec Lila tout à l'heure, elle la trace, la raie. Et ben là, en fait, comme je bougeais pas depuis plusieurs minutes, elles sont venues à ma rencontre. C'était un moment extraordinaire. Il y en a eu d'autres, mais celui-ci, tu vois, parce que tout était calme, tout était serein, en fait. Parce que je les embêtais pas pour une fois, parce qu'elles sont venues, celles qui sont venues à moi. J'étais profondément bien au fond de moi.
Et qu'est-ce qui t'a fait le plus peur?
Le plus peur, c'est quand j'ai eu 7 requins autour de moi, je crois. C'est un jour où j'ai chassé. Au début, c'était tout au début, en fait, en plus. Il fallait que je me nourrisse, parce que j'avais que du riz et des lentilles, du couscous à manger, la semoule. J'ai fait, oh, je mange, j'ai faim, quoi. Donc, je prends mon fusil, je vais tirer un seul poisson. Un perroquet comme ça, pas trop gros. Et en plus, je tire bien, je tire pour le tuer. Et tout de suite, je le prends et je le mets en dehors de l'eau. Mais les requins, ce jour-là, ils étaient énervés, je ne sais pas ce qu'ils avaient. Et donc, il y en a eu 2-3 rapidement autour de moi qui tournaient, mais excités, quoi. Ils nageaient comme des fous, ils changeaient de direction, ils étaient... Et puis, 4, 5, et j'en ai compté 7. Il y en avait partout, il y en avait dans mon dos, devant. Et là, je me suis dit, mais Mathieu, il va t'arriver des problèmes, là. Donc, tu dégages, en fait. Parce que quand le requin, ils sont 6 ou 7, ils avancent comme ça, ils mettent les nageoires un peu basses, c'est que c'est un signe un peu d'attaque. Donc là, j'ai dû aller jusqu'à la plage. Et même à la plage, il y avait Sado. Ils étaient encore à vouloir monter, quoi. Voilà. Et ça m'a énervé parce que je me suis dit, mais tu vois, c'est le début. Tu peux pas te nourrir à cause des requins. Tu vas faire comment, là? Tu vois? Donc, en plus, j'étais vraiment énervé. Donc, j'ai un sentiment contrasté, en fait. Tu vois, comme si j'avais perdu une harmonie. Et puis, finalement, je dis, attends, calme-toi, là. C'est des requins, tu les connais bien. En Calédonie, il y a plein de requins aussi. Ça fait 25 ans que tu nages avec les requins. Je suis allé chercher ma caméra. J'ai laissé mon fusil. J'ai laissé le poisson sur la plage. Et je suis retourné dans l'eau. Je dis, maintenant, tu plonges avec les requins et tu retrouves un peu l'harmonie avec eux. Voilà. Et là, ils sont redevenus calmes parce qu'il n'y a pas de poisson, il n'y avait rien, en fait. Je suis OK. Là, ils étaient énervés. Ils ont montré qu'il fallait dégager de l'eau. C'est chez eux et tu as pris leur poisson. C'est vrai. Mais tu peux retrouver une harmonie si tu respectes un peu. Voilà. Donc, j'ai eu peur, j'avoue, hein, j'ai eu peur, j'étais pas rassuré. J'ai eu peur tout de suite, puis j'ai eu peur pour après. Puis si ça commence comme ça, comment je vais faire après, quoi? Donc voilà, la caméra, elle m'a permis de remontrer qu'on pouvait nager avec eux sans problème. Et puis deuxièmement, eh bien, le lendemain, je suis retourné en regardant leur comportement. Comment est-ce qu'ils font, etc. Et après, j'ai fait un peu le malin. J'attendais pour que la marée était très basse. Parce que quand c'est marée basse, ils ont du mal à venir proche du motu. Donc quand c'était marée très basse, boum, je tire un poisson. Je me mettais sur la plage et il n'y avait pas de requin. Et quand ils arrivaient, j'étais déjà sorti de l'eau. Le temps qu'ils fassent tout le tour du motu, là, et ben Mathieu était déjà sorti. Ça, c'était une fin que j'avais trouvée, tu vois. Mais il faut toujours. J'aime les requins comme des animaux sauvages, mais c'est pas non plus mes amis et je suis pas leur ami. Et tu sais que quand ils montrent les dents, quand ils sont énervés, ta place, c'est pas dans l'eau, quoi. Tu sors. Et hier encore, quand ça fait 8 mois que je fais ça, on a eu 3 requins dans les pattes. Qui sont venus toucher la flèche tellement ils étaient énervés, quoi. Et ben on est sorti. Voilà, donc il faut cette peur là en fait, il va la transformer en intelligence. Donc, okay. C'est quoi ce message? Comment je vais faire pour vivre encore? C'est des très grandes réponses, je suis désolé, mais c'est parce que c'est des choses qui m'ont touché, quoi. Marqué.
Qu'est-ce que tu as lu?
Alors, j'ai lu des livres très différents. Les premiers livres que j'ai lus, c'était des livres d'aventure. Par exemple, c'était Premier de Cordée. Premier de Cordée, en fait, c'est une histoire assez géniale qui se passe dans les Alpes, tu vois, d'alpinisme. Et il y a le père d'un jeune qui se fait foudroyer par un éclair, un truc catastrophique. Et son fils va aller récupérer le corps de son père en haute montagne Et donc c'est toute l'expédition en fait où ils vont être pris dans une sorte de tempête. C'est une histoire d'amitié, c'est l'histoire de la montagne. Et moi j'étais content parce que j'étais ici au bord, le ciel est magnifique, au bord de l'eau. Il faisait chaud. Et ce que je disais, c'était le froid, c'était la neige, c'était l'aventure et la haute montagne. Et j'aimais bien ce contraste. Donc j'ai lu pas mal de livres d'aventure au départ, comme celui-ci. Et ensuite j'ai lu des livres d'aventuriers, comme Henri de Montfred ou qu'est-ce qu'il y a eu de Sylvain Tesson ou d'autres voilà, des grands écrivains. Et puis aujourd'hui, c'est-à-dire depuis plusieurs semaines, je lis des livres un peu plus de réflexion sur l'amour, sur l'amitié, sur le sens de la vie. C'est un peu des livres de philosophie, on dit de réflexion, quoi. Voilà, donc tu vois, tout au long en fait, de l'expédition, j'ai des livres très différents et qui m'enrichissent de plein de choses. Certains, j'ai rigolé, c'était tellement drôle. Des livres complètement fous, tu vois, en Amérique du Sud. Voilà, des livres rigolos sur nos ancêtres, les primates. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai mangé mon père, par exemple. C'est tellement rigolo. Et je me mettais à rigoler dans mon hamac tout seul, tu vois, mais ça faisait du bien de rigoler. Voilà, donc j'ai eu des lectures très différentes.
Eh bien, merci Mathieu pour cette interview.
Eh bien, merci beaucoup Julie, parce que tes questions étaient super, c'était des questions qui étaient vraiment réfléchies, elles étaient très bien posées, j'ai trouvé. J'ai senti que tu écoutais vraiment, donc ça c'est aussi, c'est chouette d'en voir des gens qui ont une vraie écoute. Voilà, donc merci pour cette interview, et bravo à toi, je pense que
Fiti a o e no tu a o ti a o.